Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est encore avec un très grand plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. Valérie Roy est psychoéducatrice spécialisée en santé mentale chez l'adulte. Elle est également conférencière et hôte de son propre podcast « Jason santé mentale » où elle invite des personnalités à venir parler de leur parcours en lien bien sûr avec la santé mentale, son sujet de prédilection. Notre discussion d'aujourd'hui portait surtout sur les performances et l'équilibre de vie, donc, ou plutôt comment s'adapter et maintenir les exigences physiques, sociales, financières et ainsi de suite, selon le contexte. Si jamais vous le désirez, Valérie fait des consultations et des suivis en ligne et vous pouvez prendre rendez-vous sur son site valerieroypsychoeducatrice.com dans lequel vous verrez le lien dans la description. Bonne écoute! Fait que bon vendredi.
Bon vendredi.
grosse semaine au bureau?
Oui, vraiment. C'est comme ici, en date de l'enregistrement, c'est la semaine avant la semaine de relâche. Mmh. Et on dirait que ouais. Tout le monde veut finir leur chose avant les vacances. Donc, effectivement, okay. Très grosse semaine.
OK. Puis ça ressemble à quoi, dans le fond, dans une semaine typique d'une psychoéducatrice ou un psychoéducateur dans le milieu? Tout est au privé, je pense. C'est ta propre compagnie.
Oui, exactement. Donc, je peux parler de ma semaine typique à moi. Donc, je suis psychoéducatrice, mais spécialisée en santé mentale adulte. Donc, je prends de la clientèle adulte uniquement et je dirais même adulte quasiment 25 ans et plus. Donc, à partir de la phase développementale où ils sont autonomes et indépendants de leurs parents. Puis, dans ma pratique, je pratique uniquement par vidéoconférence. Le seul temps où je me déplace en présentiel, c'est pour l'animation de conférences, par exemple. Mais sinon, les suivis cliniques aux patients sont strictement par vidéo. Puis, je me suis donné une place à peu près de 15 à 17 clients par semaine, à peu près.
OK.
Ouais, parce que mon superviseur clinique me chicane à chaque fois. Parce que quand on est en pratique privée, c'est beaucoup. Parce que pour chaque client qu'on a, il y a beaucoup d'administration, de gestion d'entreprise qui est faite. Puis, je suis assez connue aussi pour mon tout autre projet connexe à la psychoéducation. Donc, souvent, ma demi-journée puis ma journée de congé est consacrée aux autres projets professionnels.
OK. Puis, présentement, tu dis que tu fais ça à distance. Tu es dans quel secteur présentement? Es-tu à Québec, Montréal, Sherbrooke?
Je suis en Montérégie. Oui, okay. Mais comme j'offre des services à distance, mes clients sont à travers le Québec, vraiment. Là.
C'est bon. Oui, quand même. OK. Puis ça t'arrive-tu de faire d'autres ateliers? Est-ce que des fois tu donnes des conférences, des activités plus de groupe? C'est vraiment du one-on-one principalement?
Je ne fais pas de suivi de groupe. Ça, c'est moins ma préférence. Toutefois, j'adore animer des conférences. Je me transforme en one-woman show. Puis j'ai comme un bagage d'animation, de visite guidée en tourisme. Puis c'est là que je lâche mon fou. Donc, pas plus tard que lundi prochain, en date d'enregistrement, je vais animer une conférence sur les arrêts de travail liés à la santé mentale pour le réseau La Pommeraie. Donc, ce qui est l'équivalent du CIUS de ma région. C'est le réseau La Pommeraie, donc pour les médecins omnipraticiens, les infirmières, tous ceux qui vont traiter les patients qui sont en arrêt de travail pour des raisons de santé mentale. Donc, je leur donne une conférence sur les bonnes pratiques puis la littérature actuelle.
OK. Cool. Vraiment intéressant. Dans le fond, je vais juste faire un petit résumé aussi de pourquoi je t'avais contacté en début. Tu sais, je sais que tu étais quelqu'un quand même que j'ai découvert dans les réseaux sociaux, tu es quand même très active. Dans le domaine média. Puis, tu sais, si tu avais déjà deviné un petit peu l'idée de mon podcast qui s'appelle La Barre Haute, ben c'est un podcast dans lequel je veux juste explorer un petit peu l'expression « mettre la barre haute ». Puis quand on avait discuté avec les différentes périodes, sur les chats, entre autres, mais il y avait un sujet que tu m'avais suggéré que je trouvais super intéressant, qui est entre autres performance et équilibre de vie. Oui. Donc, je trouve ça super intéressant parce que des fois, ça peut arriver qu'on mette trop d'emphase sur le désir de performer, puis ça peut être autant au niveau physique comme au niveau du travail aussi. Puis des fois, on a tendance à négliger un petit peu sa santé mentale et même sa santé sociale, disons. Tu sais, je pourrais donner l'exemple, tu sais, ma conjointe est enseignante justement, donc elle, quand c'est vraiment dans son gros rush, exemple, en début de session, mais là, tu sais, ou bien qu'elle a un gros projet en tête, mais elle se met corps et âme là-dessus. Ça prend une petite période, mais ça prend quand même une certaine, tu sais, c'est souvent de l'over qu'ils font. Fait que, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, il y a plusieurs exemples qui se ressemblent aussi. Donc, est-ce que tu es prête à commencer officiellement la discussion là-dessus?
Oui, absolument.
C'est bon. La première question que je vais te poser, c'est plutôt que, qu'est-ce qui pourrait être un débordement ou un déséquilibre relié peut-être à l'accomplissement d'un objectif quelconque, que ce soit physique ou que ce soit dans d'autres sphères de la vie, mettons?
Mettons, je vais partir d'un exemple clinique parce que je le sais que moi, dans ma pratique, je me définis comme étant une professionnelle assez exigeante envers ses patients. Donc, je vais essayer d'aller les pousser, puis je suis assez interventionniste. Là, par exemple, où des fois, je mets ma limite, puis qu'il y a des signes, par exemple, de déséquilibre, c'est faut regarder les objectifs qu'ils se mettent en fonction de leur état actuel. Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Puis, ce que je remarque souvent dans ma pratique, c'est que la majorité du temps, les gens vivent plusieurs petits stresseurs, plusieurs petits contextes qui s'accumulent, mais ils vont les traiter de manière individuelle, en se disant qu'ils peuvent viser très, très haut, parce que de toute manière, ça, ce contexte-là, il n'est pas si gros que ça. Ce contexte-là, il n'est pas si gros que ça. Le contexte ici, il n'est pas si gros que ça. Alors que moi, je leur dis non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un tout. Puis je donne souvent l'analogie, prends 100 petites roches d'une livre, puis une grosse roche de 100 livres, les deux vont peser 100 livres dans ton sac à dos, là. Donc, si tu accumules plein d'irritants, plein de stresseurs, puis qu'après ça, tu as les mêmes attentes, les mêmes exigences que si tu n'avais rien du tout ou juste une roche, une petite roche d'une livre, bien, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est important de regarder les objectifs de performance qu'on se donne, que ce soit, par exemple, de... tu sais, sans être dans du clinique, mais juste de viser un apprentissage dans le but d'avoir une promotion au travail. Puis que là, on essaye de se former pour avoir cette promotion-là ou d'apprendre un nouveau sport ou de développer une nouvelle compétence puis de se dire qu'on va être bon, tu sais, ou expert dans ce domaine-là. Mais c'est de voir, OK, la période d'apprentissage, ça s'insère dans quel contexte, dans mon mode de vie? Est-ce que je fais déjà du 40 heures semaine? J'ai une famille avec des jeunes enfants, ce qui fait que je me réveille à 5 heures puis je me couche à 11 heures parce que mes enfants dorment pas. Quand est-ce qu'on va insérer l'objectif? Mm-hmm. Où est-ce qu'on le met? Qu'est-ce qui est réaliste?
Mm-hmm. Puis comment tu fais, mettons, pour... je dirais pas comment prendre conscience parce que tu leur fais un petit peu travailler sur la réalité de leur objectif, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais dans quel contexte, mettons, que tu envoies le plus souvent, comme est-ce que c'est vraiment au niveau, mettons, comme tu dis, est-ce que je veux augmenter, je veux avoir une promotion, je veux travailler là-dessus? Est-ce que c'est plus au niveau sportif? Est-ce que c'est vraiment 50-50? C'est quoi plutôt le plus récurrent que tu vois dans ta pratique comme type d'objectif?
Tu veux dire des motifs de consultation, par exemple?
Exemple. Oui.
Les motifs de consultation que je reçois le plus souvent sont plus généraux. Tu sais, ça va être, par exemple, d'outils des personnes à mieux gérer leurs émotions. Puis là, des fois, ça va être de mieux les gérer dans des situations spécifiques, par exemple, qu'on va le pratiquer, mieux gérer leur stress. Des fois, ça va être des problèmes liés au travail. Il y a eu des grands changements dans le travail. Puis là, ils ne savent plus comment s'adapter face à ces changements-là. Puis, en général, des symptômes de déséquilibre, tu sais, je dis souvent, en psychoéducation, son champ de pratique, c'est l'adaptation. Puis, on le sait qu'on a de la difficulté à s'adapter quand on est capable de dire, par exemple, depuis cet événement-là ou depuis cette accumulation-là, bien là, on commence à avoir des difficultés. Les difficultés peuvent être, par exemple, qu'on peut avoir des réactions émotionnelles, c'est un peu disproportionné. Plus intense que la situation comme telle dans le moment présent. Des réactions qu'on ne se reconnaît plus. On commence à avoir un désintérêt pour certaines choses parce qu'on essaie de juste ramer puis gérer l'accumulation puis la situation difficile. On peut se détacher, par exemple, de ce qui est important pour nous pour se centrer uniquement sur le problème, le stresseur, mais ça a un coût, ça aussi, en énergie puis en performance. Donc, c'est assez variable comme motif de consultation, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Gestion du stress, gestion des émotions, Dernièrement, j'ai comme une recrudescence suite à mon apparition à un podcast quand même assez populaire où j'ai parlé de l'adaptation, la parentalité, mais plus de comment l'adulte s'adapte à son rôle de parent. Je ne fais pas de coaching parental, je ne dis pas comment élever les enfants, mais je prends soin de l'adulte maintenant parent, par exemple. Fait que ça, j'en ai un petit peu plus ces temps-ci aussi.
OK. Puis c'est quel le podcast que tu as fait des fois que les personnes qui seraient intéressées à écouter un petit peu ce que tu as à dire, qui peut se retrouver, pour pas le mentionner?
Ben oui, dans le fond, j'ai passé récemment au podcast Sexe oral pour parler de la sexualité dans la parentalité ou vraiment de la conciliation couple et famille. Donc, c'est disponible sur YouTube et sur les plateformes d'écoute, comme ton podcast d'ailleurs, je pense. Là, mais si jamais il y en a qui se sentent interpellés par ce sujet, ils peuvent aller l'écouter.
Ben, ça pourrait retirer certains tabous, disons. Ça pourrait être intéressant, justement. Oui. Peut-être prendre le temps de l'écouter aussi. On verra. On ne sait jamais, ça pourrait être intéressant. Bon. Maintenant que le malaise est passé. non, c'est une blague. Mettons qu'on va l'exemple que tu m'as donné tantôt, que je trouvais ça très pertinent, quelqu'un qui désire une promotion. Tu sais, même dans mon domaine, ça m'arrive souvent. J'ai déjà même moi-même essayé d'en avoir à certaines périodes aussi la chance de. J'ai essayé de passer des entrevues, puis ça n'a pas toujours bien marché. Mais bref, ça, c'est un autre détail. Mais mettons quelqu'un qui veut. Travailler là-dessus, qui veut faire l'apprentissage en vue d'une promotion. Ton approche, tu dis qu'elle était interventionniste, puis comme, je te dis intense, mais je veux juste être sûr, je dis le bon terme. Comment toi, avec ton client, tu crées la relation, puis comment t'approches justement dans ce cas-là? Là? Moi, je veux avoir une promotion, mais tu sais, des fois, mon train de vie ne me permet pas nécessairement d'aller chercher ça ou je m'épuise trop rapidement. Comment toi, tu fonctionnerais avec cette personne-là, habituellement?
OK. Je vais répondre, mettons, à ton autre question en parallèle pour expliquer après ça mon côté interventionniste. C'est, par exemple, il y a plusieurs façons de répondre aux besoins de la personne selon ce qu'elle désire. Donc, en général, quand les personnes me disent qu'ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'astuces, de stratégies concrètes, tu sais, qu'ils vont savoir quoi faire et quoi mettre en application dans leur quotidien, ça, c'est mon dada. T'sais, j'appelle ça être interventionniste, donc je fais des interventions concrètes avec des solutions concrètes, une approche où ils peuvent vraiment le voir, comment ça peut s'intégrer dans leur quotidien, soit des différences chez eux ou des façons de communiquer différemment avec leurs proches, que ça va générer une interaction qui s'améliore, par exemple, ou jouer sur la routine de vie, des choses comme ça. Mais tu sais, il y a aussi, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire du soutien, on peut offrir de l'écoute. Moi, je dis toujours à mes clients, je dis, moi, j'ai tendance à vraiment y aller dans les outils, les stratégies. Fait que si tu m'arrives avec un besoin plus, tu veux venir te déposer, tu veux venir ventiler, fais juste me le dire clairement pour pas être déçu puis te sentir bousculé dans mon approche. Mais sinon, pour en revenir à ta question par rapport à la promotion, sans dévoiler de détails confidentiels, ça donne que j'ai un dossier que ça tourne un peu présentement autour de ce sujet-là. Fait que, par exemple, je vais regarder quels sont les facteurs qui font qu'il ne l'a pas déjà eu. Est-ce qu'il s'est déjà essayé et n'avait pas certaines compétences? Ce qui va plus rentrer dans mon champ de pratique, c'est, par exemple, gérer l'anxiété de monter, affronter le regard de certains collègues, la peur du jugement, la peur d'avoir l'air incompétent, comment intégrer dans sa routine de vie des périodes d'études pour faire de la formation, pour avoir les compétences pour obtenir et postuler sur la promotion. Je dis toujours que je ne peux jamais garantir qu'il va obtenir la promotion, mais on peut travailler ensemble sur les facteurs pour augmenter les probabilités puis qu'il sache au moins qu'il semble avoir tout fait ce qui était humainement possible pour lui de l'obtenir, puis après ça, le résultat ne dépend pas de moi, par exemple. Okay. Donc, présentement, c'est ça que je fais avec une personne. Donc, on regarde, bon, OK, explique-moi c'est quoi tes sphères de vie, ton horaire typique, ta routine hebdomadaire, à quoi qu'elle ressemble. On va regarder ensemble quels sont des moments stratégiques pour les temps d'études. On va essayer, cette personne-là en question fait beaucoup, beaucoup d'anxiété par rapport au temps d'études en raison d'expériences passées. Donc, il faut essayer de défaire cette anxiété-là dans l'ici maintenant. C'est de changer un peu sa relation par rapport à l'étude, gérer son anxiété, sa peur de l'échec. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire pour augmenter ses chances de réussite ou au moins qu'il soit fier un peu de son processus d'application puis de tenter d'avoir la promotion.
OK. Puis, tu sais, mettons dans l'exemple aussi qu'on pourrait qualifier, mettons, quelqu'un qui a les compétences, tu sais, il sait que pour l'emploi, il a regardé la fiche des compétences requises, ça va super bien, il sait qu'il est là-dedans, mais c'est tout le temps au niveau de l'entrevue que ça fonctionne plus ou moins. Est-ce que les recommandations que tu proposes sont similaires ou c'est probablement juste du cas par cas aussi, là, probablement?
Bien, c'est du cas par cas, puis il faut faire attention pour ne pas tomber dans le champ de pratique des conseillers d'orientation aussi. Mm-hmm. Fait que des fois, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'entrevue qui rentre dans un problème d'adaptation? Donc, des fois, c'est par exemple dans le contexte ou de manière générale, quand tu es devant une personne d'autorité, que là, tout d'un coup, l'anxiété va augmenter parce qu'il y a peur du jugement puis il y a peur du rejet. OK, ce petit bout-là, on peut le travailler en psychoéducation, par exemple. J'avais une idée, puis là, je sens qu'elle est en train de partir, la coquine, c'est vendredi après-midi, ça fait ça. Ah oui, c'est ça. Pareil. Oui, c'est ça. On est humain. Oui, c'est ça. J'en ai une autre personne présentement aussi où on travaille un peu sa confiance en elle et la reconnaissance de ses compétences. Mais de manière générale, pas juste niché sur le travail, parce que quand c'est très, très centré sur le travail, je trouve que ça touche mm-hmm. trop au champ pratique des conseillers d'orientation. Fait qu'on le fait de manière générale en touchant, entre autres, à cette situation-là, par exemple, d'entrevue. Mm-hmm. Mais des fois, ça peut être de voir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui la stimule, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses passions, mais d'y aller plus dans le concret. T'sais, qu'est-ce qui fait que tu penses avoir les compétences, par exemple, pour cet emploi-là? Comment tu me le décrirais? On peut faire des mises en situation aussi, sans que je joue à faire l'employeur, encore une fois, mais de plus dire, bon, mais entre toi et moi, parle-moi, là, comme tu parlerais à ton ami, de pourquoi tu aimerais ça, ce poste-là. T'sais, comment tu le décrirais? Puis après ça, moi, je peux aider à reformuler, à être un petit peu plus précise, à être un petit peu plus dans des termes positifs, par exemple. Mais au besoin, si je sens que c'est très niché, puis que c'est uniquement par rapport au travail, je peux référer un conseiller d'orientation. C'est surtout quand, par exemple, les personnes ne savent pas trop s'ils font une réorientation professionnelle. Mais s'ils savent qu'ils veulent rester à la même place, mais qu'ils veulent juste affronter, par exemple, le stress de l'entrevue, l'anxiété, la peur du jugement d'une entrevue, bien, c'est là que je peux aider à gérer ces facteurs-là, par exemple.
OK, puis admettons, avec ce que tu dis, je pensais à quelque chose, parce que souvent, ben, je dis souvent, c'est un terme que j'utilise souvent, mais quand tu postules aussi, normalement, c'est toujours une question monétaire derrière. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir une clientèle dans ces cas-là qu'eux autres, ils veulent postuler pour vraiment avoir un meilleur bénéfice financier? Ou, puis si ça arrive, mettons, comment moi, personnellement, peut-être que je considère que c'est peut-être pas la raison principale pourquoi tu devrais postuler sur un poste, mais admettons qu'il y en a qui font ça principalement pour ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir une clientèle demain? Puis des fois, est-ce que tu réorientes dans ce temps-là ou comment tu procèdes dans ce temps-là pour ces personnes-là? Est-ce que ça arrive? Que c'est vraiment une question de stress financier qu'ils veulent pousser vers quelque chose ou peu importe?
J'essaie de réfléchir, voir ça m'est-tu déjà arrivé. Que ce soit vraiment juste pour l'argent. Je pense pas que ça me soit arrivé, mais par exemple, ça m'est déjà arrivé dans des situations qui pourraient ressembler un peu à ce que tu me décris, où la personne est, par exemple, en arrêt de travail ou en transition parce qu'elle veut changer de travail parce que cette personne-là est excessivement malheureuse, mais c'est quand même un travail où elle gagne bien sa vie. Puis, elle veut peut-être se réorienter vers un autre emploi, changer carrément de milieu, des fois changer de profession, puis là, va y aller en fonction du salaire. Bien, c'est sûr que j'ai une certaine responsabilité de dire comme, OK, partage-moi un peu qu'est-ce que tu me dis. Puis, en fonction de ce qu'elle n'a pas aimé dans l'ancien emploi, tu sais, les facteurs qui étaient vraiment préjudiciables pour sa santé mentale, son stress, son anxiété, son équilibre de vie, puis comment ça venait carrément impacter les autres sphères de vie aussi, bien, ça m'est déjà arrivé de faire comme, Lou, explique-moi, c'est quoi la différence? T'sais, pourquoi cet emploi-là que tu me décris serait différent du poste que tu as envie de quitter? Parce que moi, au niveau des charges de travail, ça a l'air d'être autant d'heures que l'autre, alors qu'un des facteurs, c'était que tu passais pas assez de temps avec ta famille, avec tes amis, que tu n'avais pas de temps pour toi, là, tu as l'air de travailler encore plus dans ce poste-là. Fait que, explique-moi pourquoi je ne devrais pas être inquiète pour toi par rapport à ça. Mm-hmm. Je ne vais pas dire, par exemple, de ne pas y aller ou de ne pas le prendre, mais je vais comme questionner puis un peu demander des comptes. Là. Explique-moi ton raisonnement. Là, qu'est-ce qui fait que d'aller travailler là, dans ce milieu-là, ce ne seraient pas les mêmes genres de stresseurs, puis tu sais, excusez l'expression, mais tu ne remplacerais pas 4,30 sous pour une pièce. Tu sais. Fait que je vais confronter un peu les choix de la personne, que soit qu'elle va m'amener des argumentaires, puis tu sais, un peu par elle-même, comment qu'elle va prévenir dans ce nouvel emploi-là un retour des symptômes ou l'aggravation de son état de santé mentale, ou sinon, elle va peut-être réaliser comme « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, donc je vais peut-être changer un peu mes priorités ou mes, tu sais, comment je vais changer d'emploi ou de poste visé, par exemple. »
OK. OK. J'avais aussi peut-être une question, peut-être te challenger un petit peu par rapport à la performance, parce que là, on parle beaucoup au niveau du travail, au niveau de l'adulte en général. Ça reste quand même au niveau des adultes, mais j'avais déjà fait un épisode sur ce qu'on appelle la bigorexie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la bigorexie ou plutôt la dysmorphie corporelle. Dans le fond, pour faire un résumé, oui, dans le fond, le résumé pour tous, c'est vraiment, c'est comme un trouble qui peut être qualifié comme l'anorexie, mais ce n'est pas vraiment l'anorexie. C'est un trouble qui dans lequel tu n'es pas bien dans ton corps et que tu fais tout pour faire du sport, pour faire de l'activité physique ou plutôt tu es hyper dépendant plutôt de ce style de vie-là qui est mode de vie hyper sain, hyper sportif et ainsi de suite. Puis, dans ce monde-là, ce qui arrive, c'est que soit tu peux te couper aux yeux du monde, est-ce que tu peux te couper aussi au niveau social, des fois tu dépenses aussi beaucoup d'argent sur ton objectif principal, puis ça devient une maladie en soi. Je dis une maladie, je vais dire plus trouble pour pas choquer personne non plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de personnes-là, dans le fond, tu sais, ça peut être autant un grand sportif, mais tu sais, qui passe que la majorité de son temps pour se dédier à son sport, peu importe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de clientèle-là?
Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que la dysmorphie corporelle est plus par rapport à, mettons, très vulgarisé, c'est que tu te vois pas tel que t'es réellement au niveau de ton image puis ton corps, fait que tu vas tout faire pour essayer de le changer, alors que, tu sais, dans les mesures et tout ça, ce n'est jamais aussi grave que ce que tu vois. Puis, il me semble que, si je ne me trompe pas, ça ne ressemble pas aussi à l'orthorexie, ce que tu as décrit. Je le connais moins, ce diagnostic-là. L'orthorexie qui est l'obsession pour la santé, mais de sorte que ça atteint ton fonctionnement général. T'sais, ça va t'empêcher de te sortir avec les amis. Tu vas éviter des restaurants et des sorties entre amis parce que tu ne veux pas manger à ce restaurant-là parce que ça ne correspond pas à ta diète. Il y a comme un côté obsessionnel. Il me semble que j'avais déjà entendu ça. Fait que je ne suis vraiment pas certaine.
C'est exactement ça.
OK.
Sauf que le principe de bigorexie, c'est, mettons, plus le complexe d'Adonis. Ou c'est plus au niveau des garçons que ça arrive, mais des garçons, des hommes. Mais, tu sais, c'est ça. Parce que là, on s'entend que c'est vraiment dans l'extrême aussi. Moi, je suis kiné, tu le sais, tu as vu un petit peu mes affaires, là, je crois. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, tu as vraiment ce complexe-là. Moi, je l'ai eu aussi quand j'étais plus jeune. Puis encore là, tu sais, je suis pas capable de... Moi, j'ai de la misère de pas passer une semaine sans m'entraîner. Je me sens mal à vivre cette situation-là, tu sais. Quelqu'un, on sait sûr qu'il y a des effets qui sont bénéfiques, puis des fois, ça crée des fois une dépendance qui peut parfois être excessive. Dans mon cas, ça m'est arrivé dans certains de mes collègues aussi, d'autres cas, tu sais, mettons, dans mes clients que je vois, ça arrive régulièrement. Fait que, tu sais, comment... Moi, vu que je suis pas professionnel pour travailler sur la santé mentale à ce niveau-là, mettons, sur la santé... je dirais au niveau psychologique, disons.
Ouais.
Si advenant le cas qu'un cas comme ça t'arrive, parce que tu sais, on peut aussi le transposer, ça peut aussi être transposable pour le travail, tu sais, un workaholic, c'est un peu le même principe. Je dis que c'est le même principe. Je dis que c'est pas le même résultat,
mais l'obsession.
Tu sais, ça se coupe du monde, ça travaille, ça, tu sais, ça parle de job quand c'est le temps de faire un 5 à 7, des affaires comme ça, tu sais. Fait que toi, ça t'en rejoint peut-être plus dans cette clientèle-là. Moi, c'est ce que je constate, c'est que c'est un peu le même combat, mais de manière différente un peu. Est-ce que je me trompe?
Bien, j'ai déjà eu quelques clients de l'univers du coaching, par exemple, coaching physique. Okay. Puis, il y en avait une de ces personnes-là qu'en fonction des comportements qu'elle me décrivait, que là, ensemble, on en est venu à dire comme, va donc lire un peu là-dessus, sur l'orthorexie. Puis là, je ne pense pas qu'elle traversait, par exemple, le seuil clinique. Tu sais, par exemple, c'est sûr qu'en psychoéducation, on n'est pas habilité à poser des diagnostics. OK? Notre jargon légal et déontologique, c'est qu'on observe des symptômes qui s'apparentent à telle affaire et que si la personne veut un diagnostic, ben on va le référer, par exemple, à un médecin ou à un professionnel qui est habilité à poser des diagnostics. En attendant, si la personne ne souhaite pas avoir un diagnostic officiel, bon, on va jouer sur les symptômes qui nous inquiètent, qui s'apparenteraient à ce diagnostic-là. Puis, mais c'est ça, c'est que la personne auquel je pense présentement, c'est que d'après moi, si on se dit qu'à partir de cette ligne-là, on passe du côté diagnostic, je l'ai dit du côté obscur, puis après ça, c'est vraiment la gravité des symptômes qu'on présente, faible, moyen, élevé, en fonction du diagnostic. Puis en dessous, c'est monsieur, madame, tout le monde qui présente un peu des traits de n'importe quel trouble. Donc, tu sais, elle, cette personne-là, je la situe peut-être plus proche que le voisin, par exemple, au niveau de l'orthorexie. Fait qu'on était vigilants. Puis, dans des cas extrêmes, ce que tu as nommé tantôt, par exemple, de je m'entraînais beaucoup, beaucoup, puis quand je ne m'entraîne pas, je me sens coupable. Ah, ben c'est là que je rentre en jeu, moi. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment de culpabilité? Ça part de où? Je ne fais pas de psychothérapie, mais on le survole, puis après ça, on retravaille avec ça ici maintenant pour essayer d'adapter un peu notre façon de faire et de gérer la culpabilité, puis d'y aller plus dans une motivation. Là, les termes m'échappent, là, je suis en train de lire des études là-dessus, mais la motivation plus intrinsèque, de faire des choses parce que tu l'aimes. Tandis que quand on fait quelque chose parce qu'on se sent coupable, ah, misère.
Écoute, t'en as tellement de sortes, t'as même des sous-sortes, t'as introjecté, intrinsèque, extrinsèque, c'est le résultat, puis c'est je pense qu'on est lié un, là.
Bien, je pense que c'est comme à la frontière, celle auquel je pense que c'est pas introjecté, c'est l'autre qui est un petit peu plus proche des motivations externes, mais là, le...
On pourrait dire une motivation qui, si tu me permets, on pourrait dire une motivation qui est plus axée sur la perception des autres. Est-ce que c'est ça que tu voulais plus dire? Oui.
Oui, exactement. Puis qu'on le fait parce qu'on veut éviter de se sentir d'une certaine manière désagréable. Donc, il y a comme un conflit de valeurs qui rentre en jeu. Puis, c'est là de voir, par exemple, au même principe que si je fais ton parallèle avec le travail, bien, qu'est-ce qui fait que si tu ne fais pas ton 72 000 heures par semaine, tu te sens incompétent, tu te sens coupable de ne pas faire les choses. Je vois un certain parallèle aussi présentement avec certains dossiers que j'ai par rapport aux tâches ménagères. Une difficulté à lâcher prise, à diminuer certaines fréquences, à déléguer entre à l'intérieur du couple l'un à l'autre, puis qu'on se sent coupable d'en mettre, par exemple, sur le dos de l'autre conjoint, de l'autre conjointe, parce qu'on a peur de lui en demander trop, on se sent coupable de pas le faire soi-même, alors que c'est nécessaire, des fois, de diminuer, on a toutes nos limites, là.
Ah, je suis d'accord. Écoute, même moi, je me sens mal des fois de pas faire certaines tâches parce que ça n'a pas été fait, mais tu sais, en même temps, des fois, tu te le fais dire, mais ça dépend aussi, ça dépend tellement de facteurs. En même temps, est-ce que la personne, elle voulait juste s'extérioriser parce qu'elle a passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine, fait qu'elle te revient dessus, fait qu'au final, tu sais que c'est pas tant que ça. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Puis l'exemple, il y a un exemple aussi, comme tu dis, là, qu'on veut trop en faire. Moi, t'sais, au niveau du travail, en plus, moi, je l'ai vécu au niveau de la COVID-19. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Là. C'est une vieille maladie.
La quoi?
La COVID-19.
Ça
a été fait. Tu sais, on a eu un isolement dans ce temps-là. Non, ça ne te dit rien? Ah.
Non. Mais moi, écoute, j'habite loin. Hein, fait que j'ai pas connu ça.
C'est vrai. En plus, tu fais des consultations.
Tu fais
des consultations en plus. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que si tu fais des consultations en ligne, ça paraissait moins, mais c'est correct pour les autres.
Non, j'ai vraiment fait le virage en ligne à partir de la COVID.
Mais c'est souvent ça, en fait. Non, mais je vais revenir, excuse-moi, on tergiverse, comme tu as dit, on est vendredi. on le rappelle aux gens. Donc, vendredi, oui, fait COVID-19. Tu sais, tout était fermé, puis nous autres, on avait peur quand même que notre poste temporairement soit coupé. Il y en a qui l'ont vécu normalement du genre, tu sais, même l'employeur permettait des fois de dire, gars, si tu ne fais pas ton 40 heures, c'est pas grave, mais tu sais, on était, je pense, deux. qui, des fois, qui avait une idée puis qui voulait la travailler jusqu'à 6 heures le soir, mais tu sais,
ouais.
C'est genre, ça avait plus de sens à un moment donné, puis c'est quand même beaucoup éreintant parce que veux pas, c'est une autre réalité qu'on n'est pas habitué de travailler de la maison, tu sais, vu que dans le domaine de la kinésiologie, c'est un travail de terrain principalement.
Oui.
Fait que là, tu te rends compte qu'après certains temps, c'est l'enfer ce qui se passe. Excuse-moi. OK. Donc, c'est l'enfer ce qui se passe parce qu'après ça, tu fais comme, ben là, j'aurais pu prendre ce moment-là juste pour me recentrer. Puis après ça, c'est là que tu prends en considération ce qui est arrivé, tu sais, dans cet cas-là. Mais tu vois, là, tu crées quelque chose de, tu crées, mettons, un tempérament workaholic quand ça ne devrait pas être lieu. Au contraire, tu devrais prendre ce moment-là pour te recentrer. Puis c'est là que tu fais la perspective, une perspective différente aussi. Hein. Je ne sais pas si, je sais pas ce que tu peux appuyer là-dessus un peu. Là. Ou j'ai complètement tort, puis...
Ben, c'est juste pour comprendre ta question, dans le fond, c'est pour savoir, tu sais, pendant la période pandémique, là, on avait comme une certaine peur de perdre nos emplois, fait qu'on surcompensait pour essayer de prouver sa valeur. Oui, oui, absolument.
Mais même l'employeur nous disait, il faut créer de la valeur pour qu'on justifie que notre emploi vaut quelque chose encore pour qu'en tant qu'employé, tu sais.
Oui, ben, c'est ça, c'est là exactement. On n'est pas dans des objectifs, selon moi, de performance où on veut progresser en tant qu'humain puis s'améliorer. Tu sais, on se met des objectifs de performance pour pas perdre sa job, pour pas se ramasser dans le chenout, pour éviter des conséquences désagréables. Pis ça, c'est plus associé, selon moi, une pression de performance qui est très dommageable. Parce que là, c'est comme si tu travailles, mais avec tout le temps l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de « est-ce que j'en ai fait assez? » Parce que là, ma job est en jeu, là. C'est extrêmement insécurisant. Puis, j'en profite pour... Il y avait vraiment comme un tableau que tu dois connaître, là, tous les professionnels de la santé et santé mentale la connaissent. Mais, tu sais, la courbe de la performance par rapport au stress...
Oui. La courbe inversée, oui.
Oui, exactement. Oui. Donc, on s'imagine ici, tu sais, que là, nous avons la ligne de la performance... Tu sais, que la performance va de faible à élevée. Puis, on a la ligne du stress en bas de faible... à élever, ben, le principe de la courbe de la performance, c'est que ça te prend une certaine dose de stress pour avoir, par exemple, une meilleure performance. On appelle ça un peu être stimulé, être motivé. Il y a comme un petit défi qui est associé à ça. Fait que ça va juste venir nous activer assez pour être justement performant. Mais à un moment donné, on arrive à un stade où le stress est tellement élevé que là, tout d'un coup, c'est ça, la courbe en U inversée, mais là, la performance commence à diminuer plus le stress s'accumule puis commence à devenir dommageable à ce moment-là. Donc, je pense qu'avec la pandémie, justement, il y en a beaucoup qui se sont ramassés dans le mauvais côté de la courbe, là, où il y avait beaucoup, beaucoup de stress, des attentes très élevées, des enjeux importants, puis que là, tout d'un coup, le stress était tellement élevé que la performance n'était pas au rendez-vous, ce qui rend un peu une espèce de cercle vicieux. Parce que moins la performance est au rendez-vous, plus on essaye de compenser, plus on est stressé et moins bonne est notre performance.
Puis tu sais, faut pas trop plus dire que le stress est mauvais en soi. Comme tu dis, c'est important d'en avoir un certain sens, d'un certain niveau. Puis dans ces cas-là, si tu veux, on pourrait finir là-dessus. Ce serait comment, toi, quelqu'un qui, justement, qui vit énormément de stress, vit de l'anxiété, comment toi, en tant que psychoéducateur, comment tu permettrais à cette personne-là justement d'essayer de maximiser, d'optimiser son niveau de stress pour vraiment que ses performances de 1 pour cette personne-là, elle soit optimale? Puis comment tu peux faire, où tu pourrais le référer, mettons, pour que cette personne-là puisse aller dans le bon chemin plus tard aussi? Parce que des fois, il peut y avoir des pics, là, puis ça, c'est normal aussi.
Ouais.
Mettons que le 80% soit bien contrôlé, là.
Bien, on va apprendre à gérer, par exemple, des facteurs de stress. Puis, je peux me citer un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Tu sais, j'ai dit qu'en date de l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai une animation d'un webinaire pour quand même, tu sais, des professionnels du réseau de la santé. Fait que oui, mon niveau de stress est élevé. En même temps, j'ai comme un bon track parce que j'aime animer, mais ça fait longtemps que je n'ai pas animé. Donc, il faut que je regarde qu'est-ce qui me stresse parce que je ne vais pas agir comme si non, je suis une psycho-éducatrice, hein, c'est jamais stressé, un professionnel de la santé et de la santé mentale.
Jamais.
On est des robots, on ne vit pas ça. Hein? Donc, je me prépare mentalement puis je suis honnête avec moi-même. OK, à quel point cet événement-là risque de me générer du stress et de l'anxiété? Là, quand j'ai vu la liste d'invités, puis que ça se ramassait comme plusieurs dizaines de personnes qui étaient présentes, plusieurs professionnels, je me suis dit, pas, je risque peut-être d'être stressée comme à un 6,5-7 parce que je connais quand même le contenu. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de réduire ça en bas de la moitié? Qu'est-ce qui me stresse? Bon, bien, j'ai peur d'avoir le syndrome de la page blanche. OK, si cela est arrivé, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ça? Puis d'être prête. Bon, ben, je vais me prendre des notes, par exemple. Je vais me permettre de lire du contenu. J'ai des diapositives avec un petit peu plus de contenu que je peux lire au cas où. Sinon, je me permets de juste partager la diapo, puis je parle par-dessus, puis je parle du contenu, mais sans m'y référer. Mais au moins, mes notes sont là. Quoi d'autre qui me fait peur? Ah, j'ai peur que la technologie ne fonctionne pas. OK, bon, mais j'ai contacté l'organisatrice, puis je lui ai dit, est-ce qu'on peut se connecter un petit 15 minutes avant, juste pour être sûr que le partage d'écran fonctionne pour l'animation? Parfait. Quoi d'autre qui me stresse? Est-ce que j'ai peur du jugement des professionnels? Certainement. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ça? Bien, je peux m'appuyer que je peux m'assurer que mon contenu est appuyé sur de la science, des données probantes. C'est pas juste comme je sors ça de mon expérience personnelle, professionnelle. Je m'assure que je partage des bonnes informations. Et en même temps, si je n'ai pas la réponse, je le dis et je m'engage à la chercher plutôt que de dire n'importe quoi puis que quelqu'un dans la gang le sache puis me dise comme « Ah, ah, ce n'est pas la bonne réponse. » Donc, c'est un peu le même principe. C'est de regarder qu'est-ce qui fait qu'on risque de tomber dans le mauvais côté de la courbe de performance en U? Qu'est-ce qui nous stresse de cette situation-là? Puis d'essayer de se faire des petits plans de match pour chacun des événements pour réduire la réponse du stress à l'interne, pour se rendre ça juste assez pour nous motiver puis augmenter notre performance. Parce que je ne veux pas rendre ça plate non plus, mon animation, parce que sinon, je ne donnerai pas le meilleur de moi-même à ce moment-là. Fait qu'il faut doser, là.
OK. Fait que si je comprends bien, tu prends juste un moment pour toi, tu énumères les problèmes, puis tu trouves une solution. Normalement, toi, tu recommandes quoi? Une à deux solutions par problème ou c'est relatif à la personne?
C'est relatif à la personne. Jusqu'à ce que la personne sente que le plan de match est réaliste, il est faisable, puis qu'en général, on le sait. Tu sais, quand on prend le temps d'être honnête avec soi-même. Si on se trouve une solution, puis on se dit comme, est-ce que si, par exemple, j'ai un trou noir, puis que j'ai vraiment une perte de mémoire, est-ce que mes notes, je sens que mes notes sont suffisantes pour m'aider? Tu sais, c'est juste des points de forme. Ah non, ça se peut que juste un mot-clé, ce soit pas suffisant pour moi si vraiment j'ai un gros trou de mémoire. OK, écris une phrase. Écris une phrase que tu peux lire. Puis après ça, une fois que tu la lis, ton stress va peut-être être baissé, puis ton cerveau va revenir, puis tu vas pouvoir continuer. Fait que c'est juste de s'écouter. T'sais, est-ce que le plan de match fait du sens? Es-tu réaliste? Je me vois-tu en train de l'appliquer dans cette situation-là puis que ça m'aide? Oui. OK, parfait, on passe au suivant. Non, comment qu'on peut l'améliorer?
Parfait. Je te remercie beaucoup de ton temps. Puis je te souhaite bon succès pour ta présentation. Puis je te donne une expérience, puis toi, à tes connaissances, puis je suis convaincu que ça va très bien aller.
Un gros merci, Michael, d'invitation.
Bien, merci à toi, c'était très apprécié.
Oui, pareillement, merci.